Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Léa Sabourin, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Guillaume Ménard. À la réalisation, Émilie Valla, prise de son, Clément Daté.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Aujourd'hui, Entendez-vous l'écho quitte les vestiges de l'Antiquité pour rejoindre les soubresauts de l'actualité. Cette semaine, nous avons exploré les civilisations antiques et leur organisation économique et sociale. À présent, ce n'est plus la drachme ou le sesterce qui va nous intéresser, mais le Libra, la nouvelle crypto-monnaie de Facebook. Le patron du réseau social, Mark Zuckerberg, l'a annoncé mardi. Le Libra, qui entrera en service en 2020, devrait permettre aux 2,7 milliards d'utilisateurs de Facebook d'acheter des biens et des services en ligne et de transférer de l'argent en un clic, une annonce qui a aussitôt suscité l'inquiétude des gouvernements et des banques traditionnelles. Alors le Libra va-t-il révolutionner l'univers des transactions financières ? Facebook peut-il vraiment concurrencer les banques et les États ? Faut-il redouter une privatisation de la monnaie ? Voilà les questions qui vont nous occuper aujourd'hui. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Claudia Sénic nous emmènera dans les pas de Rachel Cranton et de George Akerlof, les théoriciens de l'économie de l'identité. Et pour discuter de ces enjeux et des enjeux de cette nouvelle monnaie, deux invités qui sont déjà avec nous autour de la table. Bonjour Odile Lacomski-Laguerre.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence en sciences économiques à l'université de Picardie Jules Verne. À vos côtés, Nathalie Janson. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, enseignante à la Neoma Business School de Rouen et spécialiste de la banque libre et de la régulation bancaire. Et dans un instant, on sera rejoint par Michel Ruimi, qui est professeur à Sciences Po et à l'ESCP, où il enseigne l'économie monétaire. Un grand merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui.
Facebook a effectivement annoncé sa volonté de créer à partir de 2020 sa propre monnaie numérique. S'il s'agit d'un instrument de transaction, pourquoi pas ? S'il s'agit en revanche d'une monnaie souveraine, ça ne peut pas être le cas.
Je pense qu'il faudrait que ce soit aussi facile d'envoyer de l'argent à quelqu'un que d'envoyer une photo.
Je leur ai demandé de réclamer un moratoire sur le Libra. C'est comme s'ils ouvraient une banque sans avoir à passer par les étapes obligatoires pour le faire. Et bien sûr, nous avons des questions à poser à Facebook et sur certains de leurs comportements passés. Donc c'est très sérieux et nous devons leur demander un moratoire.
À la Banque d'Angleterre, on est assez ouvert d'esprit sur le Libra, mais on n'est pas ouvert à tout non plus. À la différence des réseaux sociaux, dont les normes et les régulations ne sont débattues que maintenant, bien après qu'ils ont été adoptés par des milliards d'utilisateurs, les modalités d'engagement dans des innovations comme le Libra doivent être décidées avant un quelconque lancement. Et c'est ce sur quoi le chancelier et moi-même insistions au dernier G7.
Voilà, on entendait dans l'ordre le ministre de l'économie Bruno Le Maire, Mark Zuckerberg, la présidente démocrate de la commission des services financiers de la Chambre des représentants Maxine Waters et le gouverneur de la Banque d'Angleterre Mark Carney. Alors le Libra n'entrera en service que dans un an, mais ce que l'on voit, ce que l'on entend déjà, Odile Lacomski, c'est qu'il suscite autant de passion que d'inquiétude.
Oui, ben c'est tout à fait normal parce que c'est quand même un événement qui est de l'ordre d'une innovation majeure. Bon, l'innovation de rupture a déjà eu lieu avec le Bitcoin. Nakamoto a quand même tracé la voie avec la blockchain et une monnaie alternative. Mais là, disons qu'on est dans une envergure un peu différente, puisque la force de frappe de Facebook est quand même autrement différente que celle du Bitcoin. Donc c'est normal, oui, que ça déchaîne les passions, parce que ça suscite à la fois l'engouement des utilisateurs, de ceux qui y croient, et en même temps, ça représente une menace pour l'ordre établi, et notamment l'ordre monétaire établi.
On va essayer de comprendre ces inquiétudes, à la fois des États, des banques centrales, des banques privées. Mais d'abord, Nathalie Janson, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi va servir le Libra ? Comment est-ce qu'il va fonctionner ?
Alors le Libra effectivement s'inscrit comme une crypto-monnaie, donc ça veut dire qu'en fait c'est une monnaie pair à pair, donc entre ordinateurs, qui pourra servir donc à tous les types de transactions du moment qu'il est accepté. La limite pour l'acceptation au niveau des gouvernements, si on veut déjà en voir une limite, c'est que si le gouvernement ne veut pas l'accepter pour payer ses impôts, eh bien voilà, le Libra pourra servir à tout sauf à payer ses impôts.
Et on va voir que pour les banques privées, l'enjeu c'est si le Libra permet ou pas à Facebook de permettre aux utilisateurs de contracter un crédit. C'est l'un des enjeux importants. Mais d'abord, j'accueille Michel Ruimi qui vient de nous rejoindre autour de la table. Bonjour. Comme je le disais, vous êtes donc professeur à Sciences Po et à l'ESCP. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, Michel Ruimi, c'est celle de la valeur du Libra. Comment est-ce que cette valeur sera-t-elle fixée? Est-ce qu'on a des informations là-dessus?
Non, pas du tout. C'est ça la grande difficulté. C'est que, d'abord, je viendrai compléter un peu la précédente intervention, c'est-à-dire que pour moi, le Libra n'est pas une crypto-monnaie, c'est un crypto-actif, et en même temps, c'est pas une monnaie puisqu'elle sera intermédiaire des échanges dans la sphère de Facebook. Voilà. Et non pas, c'est-à-dire que si j'ai des Libras, je pourrais pas payer ma boulangère ce soir. Donc ça fera peut-être...
C'est en tout cas le projet de départ. Après, on va voir si justement Facebook a d'autres ambitions.
Tout à fait, mais à ce jour, on va dire là-dessus. Alors, concernant la valeur, on ne sait pas. C'est encore dans la difficulté de la dépréciation, puisque d'une certaine manière, ce qu'il faut bien voir, c'est que le Libra sera une dérivée de monnaie officielle. Donc, ce n'est pas une monnaie au fait officielle, au sens large. Vraisemblablement, il y aura du dollar, il y aura vraisemblablement de l'euro, mais surtout aussi des monnaies asiatiques comme le yen et yuan, parce que aujourd'hui, sur les 2 milliards 3 ou 4 qui utilisent Facebook, il y a une grande partie qui est asiatique.
Donc le Libra, contrairement au Bitcoin, sera indexé sur un panier de devises. L'objectif, c'est d'assurer sa stabilité, empêcher la volatilité qu'on connaît pour le Bitcoin, Nathalie Janson.
Oui, tout à fait. Alors pour aussi répondre, je dirais que il suffit que la boulangère et WhatsApp pour pouvoir accepter les Libras pour sa baguette de pain. Donc voilà, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Pour ce qui est de la stabilité, en effet, une des barrières qu'on a pu voir avec le Bitcoin, c'est que, étant donné qu'il a une offre rigide, en fait, son prix est très volatile parce qu'en fait, il va suivre la demande. Et comme le marché est tout petit et il n'est pas très, ce qu'on appelle fluide, du coup, ça provoque de la volatilité. Et ça,
il avait perdu 85% de sa valeur en 2018.
Il était descendu. Néanmoins, il est toujours là au bout de 10 ans. Et là, effectivement, Facebook, qui a un effet de réseau qui peut valoriser éventuellement l'utilisation d'une monnaie, puisqu'il du coup, il a un réseau. Sa problématique, c'est de savoir comment on peut le faire accepter le plus facilement. Et accepter une monnaie plus facilement, évidemment, si on a un taux de change qui, a priori, est plutôt stable, c'est beaucoup plus facile pour faire accepter l'utilisation.
Et c'est intéressant que Facebook ait choisi d'indexer le Libra sur un panier de devises et non uniquement sur le dollar. Qu'est-ce que ça nous dit, cela, Nathalie Janson?
Ça nous dit qu'effectivement, ils ne veulent pas être un pseudo-dollar, donc ils ne veulent pas être une version crypto du dollar. Ça existe déjà, il y en a déjà qui fonctionnent sur cette base-là, qui n'ont pas beaucoup de succès comparé. Enfin, qui n'ont pas une taille de marché très significative. Déjà, si on la compare, ne serait-ce qu'au Bitcoin, c'est beaucoup plus petit. Pour vous donner une ordre d'idée, c'est 140 milliards à peu près pour le Bitcoin et c'est à peine 2 pour le Tether, qui est la monnaie qui a ce type de régime. Et comme il a été dit précédemment, en effet, ça reflète aussi le fait que ses utilisateurs sont un peu partout dans le monde et que donc il est préférable de la maintenir par rapport à une diversité, en fait, de monnaie et non pas une seule. Il faut aussi ajouter que ce n'est pas seulement de la monnaie, c'est-à-dire sous forme de dépôt, mais il mentionne aussi la détention de titres sûrs, de titres gouvernementaux sûrs.
Alors qu'est-ce que ça signifie?
Ça signifie tout simplement qu'ils vont, comme la Banque Centrale de Chine par exemple, on en parle beaucoup, qui détient pas forcément des réserves de cash, mais qui détient des bons du trésor américain, et bien là, Libra fera pareil, c'est-à-dire qu'elle ne va pas détenir des monnaies sous forme de dépôt, mais elle va les détenir sous forme de titres, ce qui lui permet de rémunérer et donc de rémunérer en fait une partie des coûts en fait de cette monnaie.
Et ça lui assure aussi la confiance des utilisateurs, Odile Lakomsky, parce que ça c'est un des enjeux centraux quand on crée une monnaie.
Oui, c'est ça. C'est un peu l'idée. Il y a quand même fondamentalement une difficulté pour les gens à se représenter ce qu'est une monnaie digitale. une monnaie qui n'est pas incarnée matériellement et une monnaie fiat, tout simplement. Voilà. En fait, aujourd'hui,
fiat, ça veut dire qu'il inspire la confiance.
Ça veut dire qu'il repose sur la confiance. Mmh. Voilà. Toutes les monnaies qu'on utilise aujourd'hui reposent fondamentalement sur la confiance. Et la monnaie, fondamentalement, est une créance sur la société. Voilà, c'est une définition du sociologue Georges Simmel, et qui me paraît tout à fait pertinente pour la monnaie. Et donc, à partir du moment où ça repose sur la confiance des utilisateurs, notamment, surtout, il faut pouvoir ancrer cette confiance. Voilà. Donc, soit on l'ancre dans les institutions et dans la politique monétaire, comme ça se fait à l'heure actuelle pour la monnaie bancaire, soit on l'ancre dans un matériau qui a une valeur intrinsèque très très forte, l'or. C'est un peu ce que veut reproduire le Bitcoin en proposant une offre limitée. Donc c'est en fait réinstaurer une certaine rareté physique, alors pas physique, mais enfin une rareté de l'offre de monnaie. Donc c'est faire ressembler à l'or. Et là, c'est ancrer la confiance en assurant au public qu'il y a une contrepartie à cette monnaie. Et cette contrepartie, effectivement, ce serait un panier de devises et un ensemble de bons du trésor des principaux gouvernements.
Et en même temps, la valeur pourrait être créée par l'usage qu'on fait simplement de cette monnaie. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On se désindexe? Alors, de ce panier de devises?
Il y a toujours une confusion dans la tête du public, et même, j'ai l'impression, dans ceux qui créent ces monnaies. Hein, moi, en regardant un peu le livre blanc du Libra, c'est pas très très clair, hein, cette histoire de valeur. Le gage de stabilité, c'est effectivement qu'il y ait cette contrepartie d'actifs, devises et bons du trésor. Mais la valeur de la monnaie, c'est deux choses. Si vous considérez votre monnaie dans son circuit fermé, c'est-à-dire en tant qu'instrument de transaction, la valeur de la monnaie, c'est très simple, c'est son pouvoir d'achat. Donc, c'est ce qu'elle permet d'acheter. Alors, il y a un peu cette idée-là dans le livre blanc, hein, parce qu'on trouve l'idée que, oui, on voudrait que le Libra, on puisse acheter avec le Libra à peu près la même chose demain qu'aujourd'hui. Donc, il y a quand même l'idée qu'ils veulent une certaine stabilité, mais en termes de rapport par rapport au prix des marchandises. Donc, ça suppose que, évidemment, tout ce qu'on va pouvoir acheter sur les applis Facebook d'objets, biens, etc., ça soit libellé en Libra, et effectivement que le Libra permette d'acheter à peu près le même panier de biens aujourd'hui, demain, après-demain, dans une semaine, etc.
Alors que ce n'est pas le but du Bitcoin.
Ça, c'est la question de l'inflation. Si, bien sûr que si, c'est extrêmement présent dans le Bitcoin, c'est central dans le Bitcoin. Le seul problème du Bitcoin, c'est que ils n'ont pas réussi à créer véritablement, comme ça fonctionne pas tellement bien comme monnaie, ils n'ont pas réussi à créer une véritable économie d'échange où les prix sont libellés en Bitcoin. Mais c'est un propos central, c'est de faire une monnaie non inflationniste. Mmh. C'est très très central dans toutes ces histoires-là. Et ensuite, il y a une deuxième façon de définir la valeur de la monnaie. Lorsqu'elle est une devise, c'est par son taux de change. Donc, c'est le rapport de prix entre différentes devises. Là, si on veut, enfin, si le Libra veut voir sa valeur stabilisée, il faudrait que l'association, la Libra Association, c'est-à-dire l'organisme qui va s'occuper de la gestion de la réserve notamment, et qui est constitué de 28 sociétés, dont Facebook, il faudrait qu'elle agisse comme une banque centrale et effectivement qu'elle assure, donc on serait comme dans un régime de change fixe, hein, par exemple, et il faudrait donc que cet organisme agisse comme une banque centrale, c'est-à-dire soutienne le cours de cette monnaie. Lorsqu'il y a une pression à la baisse, on achète massivement la monnaie. Lorsqu'il y a une pression à la hausse, on vend la monnaie sur une plateforme ou un marché d'échange, de façon à stabiliser le cours.
Donc, ce qu'on comprend bien, c'est qu'il y a encore beaucoup d'inconnus dans ce
Libra. Le vocabulaire n'est pas très, très net encore.
Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une différence essentielle qu'il faut souligner avec le Bitcoin, Nathalie Janson. C'est que certes, le Libra veut recourir à la blockchain, mais la grosse différence, c'est que ce sera une supervision, une gouvernance centralisée, contrairement au Bitcoin.
Oui, oui et non. Je vais faire une réponse normande. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a dans le Bitcoin, il y a une gouvernance qui est décentralisée. Et même si certains peuvent y voir de la centralisation, mais on va simplifier, on va dire que c'est décentralisé quand même dans son essence. Et la façon dont c'est organisé pour faire en sorte que les transaction soit extrêmement sécurisée, fait que cette décentralisation a un coût en termes de traitement qui limite en fait ce qu'on appelle l'échelle à laquelle elle peut opérer. C'est-à-dire qu'en fait, ça limite le nombre de transactions qui peuvent être validées dans un laps de temps. Ce qui fait que par rapport à toutes les transactions qu'on fait aujourd'hui, le Bitcoin serait incapable, si aujourd'hui on lui demandait, de se substituer à notre système actuel.
Mais cette centralisation, voilà. Elle a aussi un but politique.
Alors la décentralisation, oui, dans le Bitcoin, elle est éminemment politique, parce que c'est vraiment un projet politique, le Bitcoin, hein, puisque on revendique en fait que la centralisation par l'État ou quel que soit ce qu'il a présente, n'est pas fondamentalement, ne peut pas être efficace parce qu'en fait elle manque d'adaptabilité, d'informations fiables et qu'il vaut mieux recourir au réseau pour pour obtenir cette efficacité. Et en effet, le Libra, il est sur une blockchain qui est la sienne d'ailleurs, hein, et c'est sa propre blockchain, avec, il y aura dans cette blockchain, il y aura une semi-centralisation puisqu'il y aura ceux qui vont valider, en fait, à un moment donné, dans ce système, ceux qui valident les nœuds dans les transactions, en fait, ils seront, au départ, ce sera fermé, ça sera pas ouvert. Mmh. Et ce sera effectivement...
Ce sera pas public, c'est la grande différence avec
exactement. Mais pour eux, c'est une étape, ils l'envisagent comme une étape. Ils disent qu'en fait, c'est au début, pour sans doute créer une incitation et pour aussi sans doute être sûr de la façon dont se passe cette partie technique. Et en fait, ils ne souhaitent pas l'ouvrir, même si c'est quand même le but dans le temps. C'est la première étape.
Alors, on peut se demander quel est l'objectif de Facebook en créant cette nouvelle monnaie. Qu'est-ce qu'il va en retirer comme bénéfice, Michel Ruimi?
Il veut gagner de l'argent, d'une part.
On a du mal, justement, à voir dans un premier temps comment est-ce qu'il va en gagner.
Non, la différence, c'est qu'il y a deux aspects. Il veut développer sa base clientèle puisque en fait il part du principe que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore bancarisées, notamment les plus pauvres. Donc c'est cette possibilité. Donc on a d'un côté on ouvre sa base clientèle. Deuxième chose également, on se tourne aussi vers un peu les PME en les attirant, en leur disant ben si vous venez sur mon, je vous offre également aussi 2,4 milliards de clients potentiels, alors que vous, admettons sur Paris, vous avez peut-être maximum 10 millions à la limite. Donc c'est très intéressant pour une entreprise de pouvoir être référencée entre guillemets dans Facebook puisque on change complètement de dimension. Donc c'est et là l'idée est que vraisemblablement donc le paiement se fera par le Libra et en même temps ce qui veut dire c'est que pour attirer la clientèle on va dire un magasin physique proposera le même produit sur Facebook, un prix moins cher pour attirer les clients, naturellement payé en Libra. Et ce qui veut dire, c'est que vraisemblablement, Facebook trouvera une petite commission au passage, dans un premier temps. Donc tout ça, c'est une première recette. Deuxième recette possible, c'est qu'après, si ça marche bien, et après, il y a possibilité de pouvoir mettre de la publicité. Et c'est tout le problème après de la gestion des données qui fait que il y aura une traçabilité des sites, etc., qu'on verra. Et d'un seul coup, on verra des publicités nous apparaître, des pop-up, et donc du coup, après, voilà.
Alors justement, pour l'instant, Facebook a promis de séparer les activités financières des activités de réseau social. Et avec les accusations de non-respect des données personnelles qu'a connu Facebook ces derniers temps, on a du mal à imaginer comment le géant du numérique va réussir à créer la confiance, Nathalie Janson.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour faire un lien avec ce qui a été dit précédemment, Facebook envisage aussi pour augmenter ses revenus. Éventuellement de faire des programmes de fidélisation. Donc c'est en même temps pour avoir plus d'argent des annonceurs et en même temps pour lancer sa crypto. Ce serait en fait pour les utilisateurs finaux, c'est de éventuellement accepter de regarder des publicités. Et vous seriez rémunéré en Libra. Donc là, on voit comment on peut conjuguer effectivement le revenu des annonceurs et puis le fait que vous allez du coup favoriser la diffusion du Libra en ZASA. Si vous en avez, vous allez donc le dépenser. Donc voilà.
Mais Facebook a pris soin de créer une filiale Calibra pour séparer les données privées du Libra et les données Facebook de l'utilisateur, Odile Lakomsky.
Oui, c'est ça, effectivement. Je pense qu'ils sont très attendus quand même sur le sujet. Ils ne sont pas idiots. Donc, ils sont quand même très conscients de tous les problèmes.
Après le scandale Cambridge Analytica.
Et je pense qu'ils sont très très conscients qu'effectivement une monnaie repose sur la confiance et qu'on les attend sur ce sujet-là. Donc il y a intérêt à faire très attention. Il y a intérêt à faire très attention dans le discours, dans les communiqués officiels et effectivement dans la gouvernance. Donc c'est pour ça que effectivement il y a cette il y a deux choses. Hein. Il y a l'association Libra qui va gérer la monnaie, la réserve, etc. Et il y a Calibra qui se veut une application pour gérer le portefeuille qui permettra d'effectuer les transactions et de stocker les libras.
Michel Rumi.
Ça va un peu dans le sens, c'est-à-dire que la problématique, je rebondis un peu ce qui a été dit, c'est que il y a le problème pour Facebook à résoudre, c'est comment WhatsApp, par exemple, est une messagerie cryptée. Or, je pourrais a priori utiliser cette messagerie pour faire des virements, des transferts de fonds. Et or, il y a une réglementation, on va dire, bancaire et monétaire qui dit qu'on doit connaître son client. Donc, il y a aussi ce problème de blanchiment de capitaux. Mmh. Et c'est là où on l'attend, d'une certaine manière, de dire comment va-t-il, cette société va résoudre cette, on va dire, confidentialité des données et en même temps de faire des transferts de fonds.
Et Facebook a déjà apporté des éléments de réponse sur cette question du blanchiment d'argent, Nathalie Janson ?
Alors, a priori, oui. Il l'a rencontré, puisque comme il sait qu'il est très attendu, et je pense que même... On se demande même parfois si c'est pas une manière de prouver qu'en fait il est pas là pour malmener nos données. C'est-à-dire qu'avec ça il veut dire vous pensiez mal et ben en fait vous trompiez. En fait c'était pas ça mon intention. Et en fait il a beaucoup discuté
avec Mark Zuckerberg,
les autorités américaines sur le sujet effectivement du blanchiment en disant qu'il voulait surtout pas être une monnaie qui pourrait être utilisée pour blanchir l'argent.
Parce que c'est ce qui a été reproché à d'autres.
Exactement. Mais d'autres crypto-monnaies ont aussi fait cette démarche. C'est-à-dire qu'elles se disent, dans leur manifeste, si vous voulez, elles disent « je ne suis pas une monnaie de blanchiment, donc je vais respecter ce qu'on appelle le KYC, donc Know Your Customer, donc connaître... Et dans ce cas, la crypto n'est donc plus anonyme, mais pseudonyme, et le pseudonyme est rendu traçable. En fait, une espèce d'identité qu'on va retrouver facilement. En fait, c'est ça l'idée.
Et donc l'enjeu pour les crypto-monnaies, et pas seulement pour le Libra, c'est de montrer leur bonne volonté à la fois contre le blanchiment d'argent, mais aussi contre tous les trafics illégaux, l'accès au dark web notamment.
Je pense que en ce qui concerne le Libra, il faut quand même se dire que le Libra arrive à un moment où il y a déjà du monde. Donc il faut quand même se positionner et se différencier. C'est vraiment une logique d'innovation par différenciation aussi. Hein. Il faut se positionner par rapport aux crypto-monnaies qui sont déjà présentes. Donc quand vous regardez dans le livre blanc, il y a vraiment tout un tas d'arguments qui font que comment on va se démarquer du Bitcoin. Hein. On va être moins énergivore parce qu'on n'utilise pas le même type de blockchain.
Oui, le Bitcoin a été assez critiqué sur les dégâts écologiques.
Qui ont été en fait des critiques majeures envers le Bitcoin sont reprises par Facebook. Mais voilà, nous, on va faire différemment. Et du coup...
Notamment voilà. Sur cette question de la lutte contre les trafics illégaux.
Notamment sur cette question de l'acceptation de la régulation. C'est-à-dire qu'ils annoncent directement qu'ils ne sont pas l'idée c'est pas d'aller à l'encontre des États ou d'être une monnaie complètement alternative aux États, et au contraire, d'accepter l'accompagnement du régulateur et d'accepter ce que le régulateur pourrait éventuellement imposer.
Michel Rumi.
En prolongement avec ça, c'est d'accord. Donc il est très clair, il dit oui, je vais adapter, je respecterai toute la législation des pays. Simplement, il y a des pays qui sont plus ou moins lâches avec le blanchiment des capitaux. Donc on peut avoir une faille. Et après, quand c'est commencé à blanchir, ça continue et puis voilà.
Sachant que, comme vous le disiez, l'un des objectifs, l'une des cibles de Facebook, ce sont des pays en développement, précisément là où il y a des populations qui ne sont pas bancarisées et qui pourraient accéder à des services financiers grâce au Libra. C'est en tout cas comme ça que Facebook présente son projet et se vend.
Ah oui, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un réseau social et donc il faut bien qu'il fasse un peu de sociologie, on va dire ça comme ça. Donc non, il veut développement, mais développer cet aspect. Mais le grand problème, c'est que rien n'empêche par exemple, comme aux États-Unis, le Delaware, qui aux États-Unis, alors qu'il y a une réglementation, il y a certains États qui ont une réglementation très forte, et puis le Delaware, où c'est pratiquement un paradis fiscal. Donc, on rentre par le Delaware, puis après, on se diffuse aux États-Unis. Donc, c'est là qu'il peut poser, et je pense qu'il conviendra d'être très attentif, notamment à voir s'il y a une réglementation globale et puis s'il arrive à toute la réglementation nationale.
Vous parliez tout à l'heure, Michel Rumi, de l'élargissement de la base de clientèle. Est-ce que c'est aussi ce qui explique les intérêts, l'intérêt des entreprises qui se sont associées à Facebook dans ce projet, comme Uber ou le français Iliad, la maison mère de Free? On peut se demander pourquoi il y a, je crois, 27 ou 28 entreprises qui se sont associées à Facebook dans ce projet, Odile Lakomsky.
Oui, je pense que c'est une façon de pas rater le wagon, hein, tout simplement. On est vraiment dans un train. Mais oui, on est dans un véritable train d'innovation. Mais là, on vit une époque absolument passionnante. Hein. Le monde est véritablement en train de changer avec des innovations majeures et certains gros acteurs n'ont pas envie de rater le train. Mais il existe aussi Visa et Mastercard, etc. PayPal, je crois aussi, sont aussi dans une autre association qui s'appelle le Better Than Cash Alliance et qui a pour objectif de faire disparaître le cash et de remplacer les espèces par de la monnaie électronique. Donc c'est déjà le cas pour la monnaie mobile qui s'est pas mal développée, enfin qui se développe pas mal en Afrique. Voilà. Mmh. Et donc tous ces acteurs du monde des technologies, le M-Pesa notamment au Kenya, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres initiatives un petit peu partout et pas seulement en Afrique d'ailleurs, et qui visent aussi dans un discours d'inclusion financière qui est d'ailleurs très très diffusé par des institutions internationales officielles du monde financier et bancaire. Donc dans
ce discours, promotion de cette cashless society, cette société sans cash.
Voilà, et de faire en sorte que les populations qui n'ont pas accès à un compte bancaire puissent accéder à la monnaie. Et donc à la croissance, enfin voilà, et par la monnaie, la croissance, le développement, etc.
Dans le sens, Michel Rumi, quand on regarde le prix Nobel en Angus Deaton, qui notamment a travaillé sur la pauvreté, il disait voilà, si on donne à des personnes pauvres un peu d'argent supplémentaire, un supplément d'argent, eh bien ils vont pas consommer, ils vont développer leur téléphone. Du moins les services de téléphone. Bon, je résume un peu sa pensée, hein, mais l'idée est là, et c'est que on rentre aujourd'hui dans le fait où tout le monde est relié à travers un smartphone, et donc on peut rentrer progressivement, sans battre monnaie, dans une autre dimension de société.
L'objectif de Facebook, c'est de copier finalement le modèle de WeChat, qui est ce modèle qui consiste à, pour expliquer pour les auditeurs, c'est un modèle qui consiste à faire en sorte que l'utilisateur reste dans l'écosystème que le réseau a créé.
Il y a quelques années, je dirais que quand j'entrais sur Internet, je pouvais aller sur plusieurs sites. Donc je rentrais, sortais, Aujourd'hui, grâce à Facebook, grâce à WeChat, je rentre dans un hypermarché et je fais mon hypermarché dedans.
Et le Libra est censé accélérer ce processus.
Exactement, puisque je vais agrandir l'hypermarché, de supermarché devient hypermarché, puis après je ne sais pas ce qui peut y exister après. Et en fait, je fais un maximum de rayons. Et donc du coup, je me dis, à l'intérieur, j'ai grâce à cette monnaie commune, je vais pouvoir payer tout le monde sans problème.
Et WeChat est utilisé énormément en Chine.
En Chine, pour commander un taxi, pour aller au restaurant, pour acheter sur Internet et tout. Et il y a 80% des Chinois qui utilisent ce type de choses. Donc on est très technophile et on voit bien que je pense aussi que la Chine regarde un peu ces développements, parce que je pense qu'après, il y a aussi à supposer, si on rentre dans les fantasmes développés, c'est que si le Libra marche, tout le monde voudra rentrer dans ce système là-dessus, et donc on aura une autre configuration du monde marchand.
D'où l'inquiétude des régulateurs, cette volonté de réguler en amont avant que le Libra soit utilisé par tous. Mais alors, est-ce que les banques traditionnelles ont des raisons de s'inquiéter face à ce phénomène du Libra? Nathalie Janson, on parlait notamment de cette concurrence dans des pays où des populations sont faiblement bancarisées.
Oui, les banques commerciales, enfin c'est oui et non, c'est-à-dire que les banques commerciales, elles ont pas dans leur en tout cas les banques commerciales qui sont dans nos pays ont pas beaucoup d'intérêt à aller c'est un peu dur ce que je vais dire, mais je pense que la population qui n'est pas bancarisée ne l'intéresse pas de toute façon, parce que c'est tellement encadré, elles sont tellement encadrées que de toute façon les populations risquées, elles ça fait pas partie de leur type de marché qu'elles souhaitent développer. Par contre, elles sont effectivement malmenées parce que elles offrent elles-mêmes des solutions de paiement, et donc là clairement si le Libra fonctionne fonctionne, bah, comme il a été rappelé au début, ça veut dire que si moi j'ai envie de faire un paiement transfrontalier, bah, je vais me précipiter sur le Libra, parce que quand on sait combien ça coûte d'envoyer de l'argent dans la zone non euro, bah, très rapidement on choisira une autre solution. D'ailleurs, la plupart d'entre nous le font en faisant PayPal, enfin en faisant autre chose.
D'ailleurs, il y en a beaucoup qui utilisent le Bitcoin pour éviter, parce que c'est moins cher.
C'est moins cher.
Parce que ça devient prohibitif.
Oui.
Mais les banques ont déjà organisé la riposte. Elles se lancent dans le secteur numérique.
Oui, elles aussi. Alors, voilà,
et en utilisant notamment la blockchain.
Oui, mais pour le moment, ça se situe plus entre elles. C'est-à-dire que ce n'est pas une des solutions qui sont pour le moment avec l'utilisateur, à part peut-être pour le financement du commerce international, où certaines banques, effectivement, comme la Bank of America, mais pas seulement, il y a aussi des banques françaises qui font partie d'un consortium. Et en effet, on a déjà, elles permettent, si vous voulez, le financement du commerce international à moindre coût grâce à cette blockchain. Donc oui, certes, mais disons que par rapport à l'utilisateur final, donc au consommateur, de façon globale, c'est quand même, elles sont moins développées à ce niveau-là.
Et alors, la question qui se pose, c'est celle du crédit. Est-ce que Facebook pourrait se lancer dans le crédit? Et c'est en cela qu'elle serait véritablement une concurrente aux banques commerciales, Odile Lakomsky?
C'est effectivement quelque chose qui est envisagé notamment par certains acteurs de la blockchain en France. Alexandre Tchatchenko, je ne sais jamais bien prononcer, donc qu'il m'excuse, qui est un cofondateur de Blockchain Partner, et qui expliquait que on pourrait, dans une deuxième étape, voir le développement de prestations de services financiers, dont crédit, ouverture de bourse, pourquoi pas.
Prêter aux entreprises et prêter aux particuliers, alors, Michel Rumi.
Alors, qui dit crédit fait qu'on rentre dans le système bancaire. Ce qui veut dire qu'il y a une réglementation internationale avec des normes, des BAL 3, BAL, pour faire simple.
Des normes qui ont été renforcées depuis la crise financière de 2008.
En l'état actuel des choses, soit on change les normes internationales pour permettre, on va dire, à Facebook et autres de pouvoir faire des crédits, soit on bouge pas, et là ça peut être une conduite rigoureuse des banques et du système bancaire en réaction, de dire non, et du coup vous ne pourrez pas octroyer des crédits, sauf à assumer pour les utilisateurs ou les emprunteurs les risques que ça peut gêner.
Vous pensez que Facebook n'a pas la possibilité, étant donné les régulations existantes, de se lancer dans le crédit?
Non, il a potentiellement la puissance financière. Simplement, à côté, vous avez des normes prudentielles, ne serait-ce que 8% des fonds propres à bloquer pour les risques bancaires. Mais après, il y a d'autres aspects réglementaires, on va dire. Parce que quand
8%
vous êtes
des fonds propres, ils devraient pouvoir les avoir.
Ah oui, non, mais comme toutes les banques, même un peu plus. Mais l'idée, c'est que quand on veut octroyer des crédits, le terme de banque en France, la réglementation dit, en code monétaire et financier, nous sommes établissement de crédit. Ça veut dire que notamment, on accepte des dépôts. On voit bien PayPal, c'est pas une banque. Donc c'est ça qui est très important de voir, c'est que PayPal s'en sort très bien parce qu'elle s'émancipe de cette réglementation. Dès lors qu'on octroie des crédits, on rentre dans un domaine, entre guillemets, très très réglementaire, et ça peut poser problème. Alors, le seul truc qui peut sortir, c'est qu'on est sur Internet. Et donc, après, il y a un problème de territorialité de la loi.
C'est tout le sujet, Nathalie.
Non, mais...
On peut aussi peut-être voir une autre chose, c'est-à-dire qu'effectivement, si peut-être après tout, ils ne vont pas octroyer de crédit au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire j'ai des dépôts qui vont se transformer en crédit, et donc j'ai des problèmes d'instabilité, et voilà. Peut-être que le fait qu'ils vont obtenir des profils de dépenses, puisque c'est ça qu'ils vont obtenir en faisant utiliser le Libra. On aura donc une vision plus claire du profil de dépenses des utilisateurs de Facebook. Ils peuvent peut-être utiliser ça en fait pour alimenter en fait du prêt, mais direct, sans passer par ce qu'on appelle la création monétaire. C'est-à-dire que il y a des investisseurs qui auront envie de financer, comme on a déjà, on a Lendix, on a plusieurs acteurs sur ce marché, mais du coup l'étendre aux particuliers, puisque pour le moment, chez les particuliers, enfin, il y en a un peu, parce qu'il y a une société anglaise qui est prête également aux particuliers, mais c'est quand même assez minoritaire, mais ce serait donc pas de la création monétaire au sens propre.
Et alors, quelle est la différence entre un prêt direct et un prêt qui suppose de la création monétaire?
Dans le cadre du crédit au sens classique du terme, en fait, c'est une banque qui a des dépôts qui va prêter, en fait, vu que les dépôts ne sont pas tous retirés en même temps, eh bien, une partie va être prêtée à ceux qui en ont besoin, donc plutôt aux entreprises. Alors que là, en fait, ce sont des investisseurs qui ont de l'argent, qui sont à la recherche de projets. Donc, en fait, ici, on n'a pas ce problème de prêter une partie des dépôts, puisque là, c'est un prêt. Alors ça n'évite pas le risque, hein, mais en tout cas ça évite le risque de transformation, qu'on appelle de transformation. Et sur ce terrain-là, il ne s'inscrit pas, ça rentre pas vraiment sous les réglementations de Bâle. Donc ça pourrait effectivement être une possibilité dans le développement futur.
Et en cela, Facebook serait différente des banques commerciales qui sont effectivement celles qui créent la monnaie par le crédit. On a parfois du mal à comprendre cette idée, Odile Lakomsky, parce qu'on a beaucoup entendu que l'État allait perdre son monopole, le monopole de battre la monnaie. Mais en réalité, est-ce que l'État n'a pas déjà perdu ce monopole?
Alors, je ne peux pas donner une réponse tout à fait tranchée. Ce qui est certain, c'est que depuis le milieu des années 80, les États ont d'eux-mêmes opéré leur propre recul dans le contrôle et la régulation de la sphère financière et de la sphère bancaire. Donc effectivement, depuis le milieu des années 80, les marchés, on a encouragé le développement des marchés financiers et on a dérégulé la sphère financière et la sphère bancaire avec une privatisation dans certains pays de la quasi-totalité des banques. Bon, et les banques centrales sont devenues indépendantes, notamment la Banque Centrale Européenne. Donc, effectivement, on se retrouve quand même depuis le milieu des années 80 avec une monnaie qui est émise par des entreprises privées ayant des intérêts privés. Les banques commerciales sont des entreprises qui ont des intérêts privés.
Et en même temps, qui sont supervisées par les banques centrales.
Qui sont supervisées, mais c'est pour ça qu'elles ont un statut très ambigu, les banques. Elles ont un statut d'entreprise privée dont la volonté première est de faire du profit. Mais en même temps, elles mettent à disposition des créances qui ont une dimension sociale. Mmh. Voilà, qui ont une dimension de bien public, puisque ces créances sont utilisées comme de la monnaie. Donc, voilà, et c'est pour ça que la réglementation est très importante. Et c'est pour ça qu'on a aussi une hiérarchisation du système monétaire avec une banque centrale qui agit comme prêteur en dernier ressort. Mais on a bien vu. C'est pour ça qu'il y a autant de réactions à l'heure actuelle aussi par rapport à la monnaie. On a bien vu quand même que depuis le milieu des années 80, on a une résurgence des crises financières qui sont à chaque fois un peu plus graves. Et la dernière en date, celle de 2008, on peut pas dire que le comportement des banques ait été absolument irréprochable sur la gestion. Alors peut-être pas de la monnaie, mais en tout cas sur la gestion des actifs dans lesquels elles ont investi et qui sont la contrepartie des dépôts qu'elles inscrivent à leur bilan.
Est-ce que la création du Libra ouvre la voie en quelque sorte à cette vision que promouvait quelqu'un comme Hayek, qui était une vision selon laquelle la monnaie devait être laissée à la libre concurrence des banques? C'est une vision peut-être d'une véritable privatisation de la monnaie, Michel Ruimi?
Compliqué. C'est compliqué parce que la monnaie est particulière, c'est pas un bien. Il y a bien, autant on parle de marché de biens et services, on parle du marché de la monnaie. Donc ça veut dire qu'on l'a bien extirpé d'un bien, et donc la monnaie est un bien particulier. Donc en ce sens, dire que faire une confrontation de l'offre et de la demande, d'ancrer de façon individuelle, ça pose des problèmes en termes de confiance. On revient toujours à la chose et c'est la différence. Je reviendrai pour compléter ce qu'a dit ma collègue
Odile,
dans le sens où, pour compléter, ce qui est aujourd'hui remarquable, c'est que avec notamment l'euro, on a des pays qui sont sans monnaie nationale. L'euro, c'est la monnaie nationale, bien sûr, mais on est passé du franc qui était totalement géographiquement, alors que là, on l'a pas. Et avec le Libra, on recrée en fait un espace où le Libra existera. Donc, c'est rien que un petit complément. Je ne sais pas si j'étais assez clair là-dessus.
Comment ça, un espace où le Libra?
C'est-à-dire que Facebook, ça sera le monde Facebook. On va dire donc
un espace numérique virtuel,
Où le Libra aura lieu et la monnaie peut-être. Qui existera peut-être par Apple, n'aura pas cours a priori ou aura différemment. Aujourd'hui, avec l'euro, on a abandonné notre monnaie nationale pour avoir une monnaie commune. C'est ce que je veux dire. C'est aussi une transformation, on va dire. Mais je reviens sur le fait de pouvoir créer de la monnaie de manière individuelle. C'est un peu, à mon sens, compliqué de dire qu'on reviendra et que chacun est maître de sa monnaie. Ça veut dire qu'après, il faut pas oublier qu'on crée de la monnaie, c'est bien, mais ça doit servir, c'est un moyen intermédiaire dans les échanges, et donc ça nécessite une coïncidence des volontés. Si je vous donne des crayons de couleur, vous n'êtes pas certain de me vendre ce que vous voulez vendre.
Et cela donne peut-être une marge de manœuvre aux États aujourd'hui. Est-ce que les États pourraient empêcher ce projet d'aboutir? La Russie, par exemple, a fait savoir que le Libra ne serait pas légalisé dans le pays, Nathalie Janson.
Ça va être compliqué de rendre complètement illégal des transactions qui sont faites sur le net, parce qu'effectivement, on voit bien que physiquement, on peut interdire les commerçants de... Là aussi, c'est compliqué, mais c'est beaucoup plus facile à opérer. La seule limite qu'on a vis-à-vis de l'État, on le voit bien dans les pays où l'État est défaillant en termes de gestion monétaire, c'est le paiement de l'impôt, puisque très ironiquement, ce qui s'est passé au Venezuela, on a voulu créer une crypto-monnaie pour essayer de pallier à la crise, et en fait, on l'a imposée par la force, c'est-à-dire qu'on a donc c'est assez antinomique
d'avoir une crypto-monnaie
créée par l'État et imposée à la population, et la population a été forcée de l'accepter parce qu'ils avaient leur pension versée dans cette monnaie. Donc la sphère de l'État, voilà, elle s'arrête là, c'est-à-dire que si l'État veut pas effectivement que le Libra circule, la seule limite, le seul endroit où ils peuvent obliger ça, c'est que lorsqu'ils paient eux des pensions, ils paieront de la monnaie qu'ils le désirent, et puis quand on paie nous nos impôts. Voilà. Mais à part ça, non, c'est compliqué.
Le Libra qui pourrait devenir, comme on le disait, une réserve de valeur dans certains pays, Odile Lakomsky, et notamment dans les pays où il existe un contrôle, enfin une forte inflation, les citoyens pourraient avoir plus confiance en Facebook qu'en leur gouvernement.
Oui, pourquoi pas, mais c'est encore trop tôt pour pouvoir vraiment. C'est quand même compliqué parce qu'il y a un certain nombre de choses dont on est à peu près, voilà, on a à peu près les idées claires. D'autres, c'est tellement de l'ordre de l'avenir, ça bouleverse tellement de choses que c'est hyper dur d'anticiper tout. Pour que ça soit réserve de valeur, il faudra quand même qu'il y ait une certaine stabilité. Voilà, et puis ça dépendra de la façon dont est gérée cette fameuse réserve, comment l'association Libra va intervenir. Pour l'instant,
loin de cette étape.
Encore très très clair.
Michel Rémy, c'est que en même temps, je prolonge la réflexion, c'est de me dire, c'est pas l'objet d'être une valeur refuge. Et de toute façon, l'objet c'est de faire du commerce. Donc, à la limite, peut-être ça sera une valeur refuge entre guillemets, mais ça va.
C'est un effet collatéral positif, voilà, mais non souhaité.
Voilà, exactement, parce que Facebook veut que ça circule, quoi. Je veux dire, pour faire du business et pour gagner de l'argent.
Ça, c'est clairement différent du Bitcoin d'ailleurs, parce que vraiment c'est puisque le Bitcoin lui il veut montrer qu'il peut mieux faire que les États. Le Facebook veut juste montrer que il peut étendre sa circulation et l'usage, et c'est tout.
Et vous l'avez dit, la concurrence entre les crypto-monnaies est très importante. Il y a le service de messagerie Telegram qui veut lancer aussi sa monnaie virtuelle. Alors on peut se demander si le Libra va être le premier d'une longue série d'une nouvelle monnaie. Il n'est d'ailleurs pas le premier, mais il a une caractéristique propre, on l'a dit, qui est la force de frappe de Facebook. Et on a vu aussi qu'après l'annonce du Libra, le cours du Bitcoin a flirté avec les 10 000 dollars. Donc, est-ce que cette annonce du Libra, elle ne participe pas aussi de cette banalisation de l'usage des crypto-monnaies, Odile Lakomsky?
Banalisation, je sais
pas. On en est loin, mais est-ce qu'elle ouvre à cela?
Je pense qu'on est vraiment dans ce que je disais tout à l'heure, dans un train d'innovation qui est quand même engagé depuis, à mon avis, bien avant le Bitcoin, depuis le début des années 80, avec l'idée de créer la monnaie d'Internet. Donc à partir du moment où Internet se développe, c'est une nouvelle forme d'échange qui se développe, qui va... Je pense qu'on en est qu'au début de la révolution de ces modes d'échange et de ce type d'économie. Et il est logique que ça cherche à produire sa monnaie, en fait.
D'un mot, Michel Rumi,
parce je compléterai, si elle me l'accepte, c'est que on fait des crypto-monnaies, c'est une monnaie pour l'Internet et par l'Internet, et ça ne vaut absolument pas... C'est pas intéressant d'avoir du Bitcoin et de payer avec sa carte bancaire, d'une certaine manière. C'est tout.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que si on a du Bitcoin, c'est vraiment pour faire des transactions et voyager uniquement à travers l'Internet. Avec la carte bancaire, je peux aller dans un magasin physique. Voilà. C'est ce que j'essaye de faire comprendre.
À noter que Facebook sera auditionné le 16 juillet prochain par la commission bancaire du Sénat pour apporter davantage de détails justement sur les caractéristiques du Libra. Un grand merci à tous les trois, Nathalie Janson, Odile Lakomsky-Laguerre et Michel Ruimi, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Il est 14h44 sur France Culture et c'est l'heure de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. Et comme comme chaque vendredi, nous vous proposons un essai qui a marqué l'histoire de la pensée économique. Aujourd'hui, l'économie de l'identité de Rachel Cranton et George Akerlof, un ouvrage publié en 2010. Et c'est Claudia Sénic qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à Sorbonne Université et à l'École d'économie de Paris. Alors l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui, l'économie de l'identité, a donc été coécrit par Rachel Cranton et George Akerlof. Qu'est-ce qui les a réunis autour de ce projet ?
Rachel Cranton était l'étudiante en thèse de doctorat de George Akerlof. Et George Akerlof a toujours introduit toutes sortes de choses venues de d'autres sciences sociales, d'autres intuitions dans la théorie économique. Et à ce moment-là, il travaillait sur la distance sociale, le fait qu'on se comportait différemment envers des gens qu'on jugeait plus ou moins proches de soi. Et Rachel Cranton a dit « oui, mais on ne sait même pas ce que ça veut dire, proche de soi, c'est quoi ?» Et c'est là que l'idée de groupe et d'appartenance de groupe est apparue.
C'est là qu'elle a commencé à lui dire qu'il fallait introduire la notion d'identité dans la représentation de la consommation.
Voilà, dans les choix des gens, de consommation, d'éducation, toutes sortes de choix en fait. Alors l'identité, c'est pas l'identité de l'individu à soi-même, c'est l'identité sociale, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à un groupe de gens avec qui on partage des caractéristiques et qui du coup vont... Il y aura des normes de comportement et des images de soi qui vont découler de cette appartenance. Donc c'est vraiment l'identité sociale de groupe.
Et alors pourquoi est-ce que Cranton et Akerlof cherchent à intégrer les normes sociales et l'identité à l'analyse économique ? Quel est leur constat de départ ?
Leur constat de départ, c'est que si on ne prend pas ça en compte, si on ne prend pas en compte dans les choix des individus, dans leur comportement, le fait qu'ils sont influencés par l'idée qu'ils ont d'eux-mêmes en tant que membres d'un groupe, donc la partie sociale de l'individu, y a plein de choses qu'on ne peut pas expliquer. Le modèle simple qui se passe de ça ne prédit pas plein de comportements dans l'entreprise, dans l'école. Et donc, en fait, il faut intégrer ces hypothèses et ces paramètres dans le modèle. Ce qui n'est pas évident parce que en économie, on a ce principe très très fort de parcimonie. C'est-à-dire qu'on veut expliquer le monde avec des modèles qui reposent sur très peu d'hypothèses. En gros, la rationalité individuelle, qui veut dire en gros être efficace et cohérent. Et puis, c'est à peu près tout.
Et alors, l'économiste Gary Becker avait déjà ouvert la voie, mais son approche pose un certain nombre de problèmes, selon Cranton et Akerlof.
Voilà, donc Gary Becker, l'école de Chicago, c'est l'approche classique, standard, où les individus ont ces fameuses motivations, et elles leur viennent bien sûr de quelque part, leur éducation, etc. Elles leur viennent de domaines qui ne sont pas les domaines d'études de l'économiste normalement, qui doivent être étudiés par les anthropologues, les historiens, les psychologues, les psychanalystes, enfin tout ce qu'on veut. Et les économistes prennent ça comme une donnée. L'individu, il a ses objectifs et on prend ça comme une donnée. Et donc on dit « des gustibus not nest disputandum », on discute pas des goûts et des couleurs. Mmh. Ça c'est Gary Becker. Et ce que rajoutent en fait Akerlof et Cranton, c'est de dire non, mais en fait dans la vraie vie on discute tout le temps des goûts. On passe son temps à se disputer sur comment se doit comporter une femme, un homme, quelqu'un de jeune ou de vieux, etc. Donc on va en fait endogénéiser, c'est-à-dire essayer d'expliquer comment apparaissent ces goûts et ces couleurs, le faire rentrer dans le modèle économique. Donc en fait c'est toujours pareil, c'est l'économie qui s'étend. Ce qu'avait fait Gary Becker par rapport à l'économie standard, c'est d'étendre le champ de l'économie en expliquant les comportements de choix du conjoint au sein du ménage, l'économie du mariage, etc. C'était de faire aller l'économie dans des domaines qui n'étaient normalement pas les leurs. Mmh. Ce que font Cranton et Akerlof, c'est maintenant, dans les outils même de l'économie, de faire rentrer des concepts qui viennent d'ailleurs.
Et pour ça, ils vont élaborer un modèle général et notamment développer une nouvelle notion qui est la notion d'utilité identitaire. De quoi est-ce qu'il s'agit ?
Donc, quand l'individu se sent appartenir à un groupe de gens parce qu'il partage avec ces gens des caractéristiques, du coup, il y a certaines attentes qui émanent de ce groupe et aussi de l'autre, des autres groupes d'ailleurs. Comment on se comporte quand on est une femme ? Il y a des attentes qui viennent des femmes et des hommes. Et à ce moment-là, si on se comporte conformément à ces normes, on se sent bien et si on s'en écarte, on se sent pas bien. Et de même, chaque groupe suscite une espèce d'image idéale de ce que c'est que le membre du groupe. Par exemple, l'école suscite, peut-être involontairement, l'image de l'élève idéal. Et si on est proche de cette image, on se sent bien. Et si on s'en éloigne, on ne se sent pas bien. On peut interpréter ça ou exprimer ça en termes de gains et de coûts, ou de récompenses et de coûts.
Et alors, les deux économistes, donc Cranton et Akerlof, vont tenter d'appliquer leur modèle à une première organisation, l'entreprise. Et ils vont chercher à évaluer l'effet de l'identité d'un travailleur sur son implication au travail. Quelle est alors leur méthode, Claudia Sénic?
Bon, ce sont des théoriciens. Donc, ils se disent, dans l'entreprise, d'habitude, on représente le comportement des salariés comme étant sujet essentiellement aux incitations monétaires. En fait, évidemment, il y a autre chose. Il y a des incitations d'ordre symbolique. On peut s'identifier au projet de l'entreprise, à sa culture. Et ça joue. Et le cas extrême, c'est l'armée. où l'armée délibérément crée l'image du soldat idéal et l'incitation à l'action n'est pas du tout monétaire, évidemment, elle est complètement symbolique et complètement identitaire. Et en fait, ils mettent en évidence le fait que dans l'entreprise, c'est pareil. Il y a toute une partie qui est bien sûr l'incitation monétaire, mais il y a toute une partie d'adhésion au modèle d'entreprise. Et du coup, il peut y avoir une substitution ou une complémentarité entre les deux.
Mais alors, est-ce que l'entreprise peut modifier l'identité sociale de ses travailleurs?
On sait qu'il y a des entreprises qui arrivent très bien à créer une culture propre. Et effectivement, les employés trouvent que les objectifs de l'entreprise sont bien alignés avec leurs valeurs. Et dans ce cas, ils sont assez motivés. Et puis, dans d'autres cas, ça ne marche pas.
Alors, il y a une autre conclusion qui ressort des travaux de Crampton et Akerlof. C'est le fait que les travailleurs s'identifient davantage à l'organisation quand la supervision est moins stricte. C'est aussi quelque chose qu'ils mettent en avant?
Si on pense qu'il faut que les travailleurs créent une identité commune, il faut leur laisser un peu plus de marge de manœuvre de manière à laisser émerger des cultures particulières dans des groupes de gens qui travaillent ensemble. Ça va dans le sens de moins de bureaucratie, moins de contrôle, moins de surveillance, moins de tous ces process qu'on voit en ce moment se développer et qui sont très très délétères, je crois.
Alors il y a un autre cas d'étude que vous avez cité, Claudia Sénic, c'est l'école. Akerlof et Crampton essayent de comprendre pourquoi certains individus échouent sur le plan scolaire. Alors comment le modèle qu'ils ont élaboré les aide?
Donc chaque école crée l'image de l'élève idéal et donc les élèves réels arrivent avec leur milieu d'origine et avec une certaine idée d'eux-mêmes, une idée sociale d'eux-mêmes, du groupe auquel ils appartiennent. Si l'image de l'élève idéal et l'image de l'individu que eux sont coïncident, à ce moment-là, tout va bien. L'élève facilement adhère aux objectifs de l'école, réussit, etc. S'il y a une dissonance entre les deux, du coup, ça crée une sorte de conflit intérieur. Mmh. Et là, du coup, pour ne pas se dissocier de son groupe d'appartenance initiale, l'enfant peut finalement refuser d'adhérer au modèle de l'école.
Et donc, c'est comme ça qu'elle explique l'échec scolaire d'un pourcentage important d'élèves noirs.
Voilà, ils font une espèce de petite enquête où ils demandent aux gens comment ils se comportent à l'école et comment ils se voient eux-mêmes. Ils établissent des catégories d'élèves, ceux qui s'identifient à des élèves très sérieux, nerds, ceux qui s'identifient à des élèves plus populaires. Et on voit très bien qu'il y a des différences dans la motivation au travail. En France, c'est pareil. Enfin, on est soit intello, par exemple, ça veut dire qu'on travaille trop. Populaire, ça veut dire qu'on est cool, on a beaucoup d'amis. Si on s'identifie à un groupe, ou alors on est assigné à un groupe par les gens, par exemple, si on veut être populaire, ça va être dur de travailler trop bien.
Oui, mais ces catégories, elles sont créées par les élèves. Alors, quelle est la marge de manœuvre des établissements?
Alors, ce que disent Akerlof et Crampton, c'est que les établissements peuvent essayer de s'adapter un peu à leur public. Donc, il y a une espèce de dilemme entre leur apprendre des choses qui seront utiles pour eux plus tard, mais en même temps, il faut s'adapter à leur style de manière à ne pas les mettre dans cette situation de conflit intérieur. Donc, pour certains publics, il faut créer une image de l'élève idéal qui soit proche du public.
Crampton et Akerlof expliquent que c'est une manière de remédier à l'échec scolaire.
L'économie de l'éducation s'intéresse beaucoup aux ressources, aux salaires des profs, à la taille des classes, etc., à la mixité. Et eux, ils disent qu'il y a un élément supplémentaire, c'est de jouer sur l'identité, effectivement, de l'école et de la classe.
Mais alors, ce que proposent finalement Crampton et Akerlof, c'est tout simplement de changer nos représentations sociales. Ça paraît un objectif assez ambitieux.
C'est possible parce qu'en fait, il y a une espèce de chaîne qui va des institutions vers l'identité. Par exemple, ce qui a été observé récemment, aux États-Unis, il y a un dispositif, je ne me souviens plus du numéro, mais enfin une loi qui est passée et qui dit qu'on doit dépenser autant d'argent pour les filles que pour les garçons à l'école. Or, aux États-Unis, on dépense énormément d'argent pour le sport. Du coup, on s'est mis à dépenser énormément d'argent pour le sport des filles. Et du coup, les filles sont devenues plus sportives et ça change leur image d'elles-mêmes. Et ça change l'identité féminine. Et on voit que la politique publique peut avoir un impact sur l'identité.
Pour démontrer l'importance du sentiment d'appartenance à un groupe et ses effets sur l'économie, Rachel Crampton a mené des expériences inspirées d'une expérimentation menée dans une colonie de vacances à côté des travaux qu'elle a menés avec Georges Akerlof.
Voilà, moi c'est ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est ce qu'elle fait. C'est cette idée que l'identité de groupe, c'est l'appartenance à un groupe, mais immédiatement, dès qu'on dit appartenance, on dit aussi différence. Parce que appartenir à un groupe, c'est ne pas appartenir aux autres groupes. Et ce sentiment d'appartenance crée souvent des comportements de préférence, de favoritisme envers les membres de mon groupe, et puis peut-être d'animosité ou de discrimination envers les membres de l'autre groupe. Et la question, c'est ces groupes, est-ce qu'ils sont naturels ou est-ce qu'ils sont artificiels? Ils peuvent très bien être complètement artificiels. Ce qui est naturel, c'est ce qui est donné. Bon, je suis une femme ou un homme, je suis jeune ou vieux, bon, ça c'est donné, bon, plus ou moins. Mais il y a tout un courant de la psychologie sociale qui a montré qu'on pouvait créer de manière complètement artificielle des groupes. Par exemple, en 1954, un chercheur qui s'appelle Robert Cave a fait une intervention dans une colonie de vacances aux États-Unis, des garçons de 11 ans, à peu près homogènes, blancs. Il les répartit en deux groupes au hasard, en séparant les amis, et il leur dit, vous vous préparez pour une compétition sportive qui aura lieu la semaine prochaine. Donc, toute la semaine, ils se préparent, ils se motivent, team building, etc. Et la semaine suivante, quand ils arrivent pour le match, ils sont tellement mobilisés, ils ont tellement créé une identité de groupe que ça se passe de manière assez conflictuelle, avec des comportements hostiles, des insultes, voire de la violence physique.
Et c'est ça
alors qu'en fait, il n'y avait rien au début. Voilà. Donc, elle mène une série d'expériences qui sont des expériences de typiquement qu'on fait en labo. Donc, on fait venir des gens en labo. Bon, un labo, c'est juste une salle avec des ordinateurs. Hein. Et on les fait jouer à un jeu. Bah, c'est quasiment pas un jeu. Vous allez voir, c'est très simple, en fait. Donc, on arrive et puis on vous dit, vous êtes à Paris avec quelqu'un. Donc, vous et moi, par exemple. Et voilà, choisissez. Est-ce que, entre deux répartitions de revenus, donc deux gâteaux qu'on va découper de manière différente, est-ce que vous préférez 140 pour vous et 40 pour moi ou 100 chacune? Ou alors 140 pour vous et 100 pour moi, ou 80 pour vous et 0 pour moi. Et avant de faire ça, on répartit les gens dans des groupes. Un groupe qui est assez naturel, au sens où on leur demande s'ils sont plutôt républicains ou démocrates, ce sont des Américains ou rien. Et une autre division complètement arbitraire, où on montre aux gens des photos de paysages, des tableaux, etc. Et on leur demande lesquels ils préfèrent. Et ensuite, on forme des groupes par proximité de goût. Des choses qui ne sont pas extrêmement clivantes dans la vraie vie, si je préfère tel ou tel tableau de Kandinsky ou de Klee. Et donc, les gens, quand ils sont appariés de manière aléatoire avec quelqu'un, on leur fait savoir si la personne qui est avec eux, elle fait partie du même groupe ou pas, du groupe politique ou du groupe esthétique.
Mmh. Et si l'autre est opposé à soi, on va avoir moins tendance à lui permettre d'avoir plus d'argent.
Si j'étais un pur homo economicus, je choisirais toujours la répartition qui me donne le plus grand gain. Sachant que ces gains, ils vont vraiment être donnés à la fin. Si je suis un homo economicus avec des sentiments de justice, d'égalité, etc., comme souvent on voit dans ces expériences, je vais essayer de minimiser l'écart entre vous et moi. Je vais être un peu altruiste. Je ne vais pas vous laisser avec 40 euros alors que moi j'aurai 140. Mais ça va dépendre peut-être du groupe auquel on appartient. Et ce qu'on voit en général, c'est que si on n'est pas du même groupe, ben en fait je ne vais pas vous favoriser. Je vais au contraire plutôt discriminer. Mmh. Et si on est du même groupe, je vais être plus gentil. Le résultat, c'est que les gens sont effectivement en moyenne assez groupies, comme elle dit, c'est-à-dire claniques. Et en fait, que ça soit politique ou culturel, ils ont tendance à favoriser ceux qui sont comme eux. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est ça qui me plaît, c'est qu'il y a de l'hétérogénéité, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas pareil. En fait, il y a un peu moins de la moitié des gens qui font ça, c'est-à-dire qu'ils favorisent toujours les gens qui sont du même groupe qu'eux, esthétique ou politique. Mm-hmm. Il y a 20% des gens qui sont vraiment méchants, c'est-à-dire quand ils sont avec quelqu'un qui n'est pas du même groupe, ils font exprès de réduire son revenu, juste parce qu'ils veulent le punir. Par exemple, si je suis démocrate et vous êtes républicain, ben, en fait, je vais sacrifier mon propre revenu pour réduire le vôtre. Mais il y a quand même un tiers des gens qui s'en fichent complètement et qui choisissent toujours la même chose, que leur partenaire soit du même groupe ou pas du même groupe. S'ils sont égoïstes, ils sont toujours égoïstes. S'ils sont altruistes, ils sont toujours altruistes. Et ça, je trouve que c'est l'enjeu de ces travaux sur le groupe. Je pense qu'il y a quand même une implication forte. C'est que cette appartenance de groupe, elle peut quand même conduire à pas mal de conflictualités. On voit aujourd'hui qu'il y a plein de... C'est d'ailleurs la motivation de Rachel Cranton. Il y a pas mal de conflictualités sur la base d'appartenance religieuse ou ethnique. Comment faire pour qu'il y ait plus de gens qui ne soient pas trop groupies, qui ne soient pas trop claniques?
Pourquoi est-ce que, selon vous, aujourd'hui, il faut lire l'économie de l'identité?
Mais je pense que justement, par exemple, sur cette question-là, c'est très important. L'identité, c'est quelque chose qui est énormément discuté en ce moment. Enfin, aujourd'hui, on tue pour ça. Comment faire pour comprendre que l'identité, ça existe? C'est pas forcément donné à l'avance. C'est fluctuant. On en a plusieurs. Et donc, puisqu'on en a plusieurs, comme dans l'approche interactionniste d'Erwin Goffman, dont Rachel Cranton est très proche, peut-être qu'il faut entraîner les gens, peut-être dès l'enfance, à se rendre compte qu'on a plein de facettes, et donc il faut les relativiser. Elles existent, mais elles ne justifient pas de franchir la ligne de la violence et de la conflictualité.
Merci beaucoup, Claudia Sénig, de nous avoir permis de découvrir l'économie de l'identité grâce à cet ouvrage de George Akerlof et de Rachel Cranton. Il est paru en anglais seulement aux presses universitaires de Princeton. Un grand merci. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. La semaine prochaine, pour la dernière série de la saison, c'est l'économie du voyage que nous allons explorer. On parlera de tourisme de masse, de l'histoire du voyage et de l'économie de l'errance. D'ici là, n'hésitez pas à écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr ou bien en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.